Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit,
Alexandre Lemaire.
Bonsoir, la Russie multiplie les frappes contre les civils ukrainiens. Un missile contre un centre commercial, le bilan est lourd. Et ce soir, une foule visée au lance-roquettes à l'heure de la collecte d'eau potable. L'heure du verdict au procès des attentats du 13 novembre. La cour a entendu aujourd'hui les derniers mots de Salah Abdeslam. Il affirme ne pas être un tueur. Première ministre recherche majorité pour gouverner. Elisabeth Borne va consulter toute la semaine. Premier texte à faire passer la loi pouvoir d'achat. Nous en verrons le contenu. Et puis sans attendre, les routiers qui étaient en grève ce lundi pour les salaires, nous les avons rencontrés en Seine-et-Marne. Julien Alaphilippe, privé de Tour de France, le double champion du monde n'a pas complètement récupéré après sa lourde chute il y a 2 mois. Le temps demain, c'est une nette amélioration et le retour d'un franc soleil sur la plupart du pays. L'invité politique, à 22h20, nous serons en ligne avec Boris Vallaud, nouveau président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Et puis avant la libre antenne, un tour d'horizon des unes de la presse demain matin.
Europe 1.
C'est une nouvelle frappe russe contre des civils ukrainiens. L'armée de Vladimir Poutine a visé aujourd'hui un centre commercial à Kremenchuk, dans le centre de l'Ukraine. Il y avait à l'intérieur plus de 1000 personnes quand le missile a frappé. Un nouveau bilan qui nous parvient à l'instant fait état de 13 morts et plus de 40 blessés. Nicolas Tonev.
Oui, et Alexandre, ce terrible bilan pourrait encore évoluer vers le pire parce qu'il y a effectivement ce timing, vous le disiez, 1000 personnes à l'intérieur, une frappe en journée lorsque les gens se promènent et font leurs courses. Et puis l'arme utilisée explique aussi le bilan, probablement un K-22, hein, c'est un très gros missile anti-navire remis en service depuis le début de la guerre et qui est utilisé maintenant au bombardement air-sol. Hein, c'est une arme ancienne mais dont la charge peut atteindre une tonne, c'est énorme. Et les murs du centre commercial se sont d'ailleurs effondrés. En partie. Alors, ce qui interroge finalement, hein, c'est pourquoi Kremenchuk et pourquoi ce centre commercial. Kremenchuk, c'est une ville de 220 000 habitants située sur le Dniepr. Vous le disiez, en plein centre de l'Ukraine, à mi-chemin entre Kiev et le sud, à mi-chemin du Donbass à l'est et de la Moldavie à l'ouest. Pas d'intérêt stratégique particulier. Alors, cette frappe sert soit à effrayer la population, soit comme à Kiev en mars dernier, le renseignement russe avait appris qu'il y avait des armes utilisées par l'armée ukrainienne utilisées à l'intérieur, ce qui aurait fait finalement du coup de ce centre commercial un objectif militaire.
Merci Nicolas Tonev. Le président Zelensky dénonce un acte terroriste éhonté. Cette frappe russe contre des civils est totalement déplorable pour l'ONU. Elle montre la cruauté et la barbarie de Poutine. Réagit encore le Premier ministre britannique Boris Johnson. Des civils ukrainiens encore pris pour cible cette fois à Lysychansk dans l'est du pays. Les Russes ont tiré avec des lance-roquettes multiples sur une foule de gens qui venaient récupérer leur stock d'eau potable depuis une citerne. 8 personnes ont été tués, 21 sont blessés. Ces attaques interviennent en plein sommet du G7 en Bavière. Les pays membres s'engagent à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra, à un moment où Vladimir Poutine guette la moindre fissure dans le camp occidental confronté à une inflation importante. Un procès pour l'histoire, une étape incontournable autant qu'une épreuve pour les victimes des attentats du 13 novembre et les familles. Après 10 mois d'audience, ce procès touche à sa fin. Aujourd'hui, le principal accusé, Salah Abdeslam, a été le dernier à prendre la parole. « Je ne suis pas un assassin », voilà ce qu'il a lancé à la cour d'assises spéciale de Paris. Vous avez assisté pour Europe 1 à cette dernière audience avant le verdict, Gladys Laffitte. Et de façon très surprenante, des liens se sont tissés dans ce procès entre des accusés et des familles de victimes. Gladys, qui a donné lieu aujourd'hui à des moments très forts.
Oui, d'abord pour les parties civiles venues très nombreuses. La salle retenait son souffle avant chaque prise de parole des accusés. Certains, notamment ceux qui comparaissent libres, étaient très émus. Ils pourraient retourner en prison et ont exprimé leur peur. Mais ils ont aussi longuement remercié les victimes. Elles m'ont beaucoup soutenue, celles qui viennent nous voir chaque jour le matin avant de rentrer à l'audience, a soufflé l'un de ces accusés fébriles. Des remerciements et des excuses qui ont touché Philippe Duperron. Il a perdu son fils au Bataclan et préside l'association de victimes 13-11-15. Fraternité et vérité.
Pour moi, il y a vraiment beaucoup de sincérité dans leurs propos. Les témoignages des parties civiles qui ont été portés à la barre ont réellement eu un impact. Je ne suspecte pas la sincérité pour la totalité de ceux qui l'ont exprimé.
Même Salah Abdeslam, qui s'est exprimé en dernier, il a tenu à expliquer qu'il avait évolué au fil de l'audience et que ses excuses étaient sincères. Et puis l'accusé, qui risque la prison à perpétuité incompressible, a prévenu la cour. « J'ai reconnu que je n'étais pas parfait, mais je ne suis pas un tueur. Si vous me condamnez pour assassinat, vous commettrez une injustice. » Verdict mercredi soir donc.
Gladys Laffitte au procès des attentats du 13 novembre. Le projet de loi du gouvernement sur le pouvoir d'achat est dans les tuyaux à 10 jours de sa présentation en Conseil des ministres le 6 juillet prochain. Les routiers ont fait entendre leur colère ce lundi. Mouvement de grève et barrages filtrants, les grévistes réclament une hausse des salaires. Ils ont ralenti la circulation dans une vingtaine de zones industrielles partout en France et notamment à Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne. Reportage Guillaume Dominguez.
C'est devant les grilles d'entrée du parc industriel de Chanteloup que les syndicats ont dressé leur stand et barré la route pour empêcher les poids lourds d'aller et venir. Drapeau à la main et casquette aux couleurs du syndicat, Alain participe à sa première grève en 24 ans de métier. Ce routier de 52 ans gagne 1600 euros par mois, un salaire devenu trop faible face à la hausse des prix.
Tout augmente, sauf les salaires. Donc à la fin du mois, on n'y arrive plus. Tout le monde le voit, faites le plein, c'est minimum 100 euros. Et alors qu'avant, on faisait 80 ou 70 euros, ça passait. Bah, c'est 30 euros de plus, c'est énorme. Je ne demande pas en mettre des 100 et des 1000 de côté, mais au moins qu'on y arrive quoi, à la fin du mois. Pouvoir nourrir, chauffer ma famille, loger ma famille. C'est tout ce que je demande.
Un sentiment que partage Mohamed. Lui est transporteur de déchets. Il réclame 500 euros pour pouvoir vivre correctement, mais aussi et surtout de meilleures conditions de travail.
On est au bout du rouleau. Je me lève le matin à 4h du matin jusqu'à 18h le soir pour 1600 balles. Non, et on risque la vie des gens, on risque nos vies, le permis, on risque tout ce qui en suit derrière. On ne peut pas continuer comme ça.
Et les syndicats préviennent que les manifestations d'aujourd'hui ne sont qu'un coup de semonce. Ils durciront le mouvement s'ils ne sont pas entendus. Moissy-Cramayel, Guillaume Dominguez, Europe 1.
Alors que contient justement le projet de loi pouvoir d'achat? Je me tourne vers vous Carole Ferry. Le gouvernement met l'accent sur une augmentation de la plupart des prestations sociales.
Oui, alors officiellement, ces minima sociaux seront revalorisés le 1er juillet, mais il faudra d'abord que la loi soit votée pour que cela puisse s'appliquer. Le texte prévoit donc une hausse de 4% des pensions de retraite, des allocations familiales, du RSA, des allocations de Pôle emploi ou encore de la prime d'activité. Le texte prévoit également un bouclier logement. Alors, il n'y aura pas de gel des loyers, mais la hausse sera tout de même plafonnée à 3,5% pendant un an. Une décision validée cet après-midi par le Conseil national de l'habitat. Pour les locataires les plus fragiles, les APL devraient augmenter également de 3,5% au 1er juillet.
Ces mesures pour le pouvoir d'achat, Bruno Le Maire les a sorties d'un message d'avertissement. Carole, le message c'est en gros on ne peut pas faire plus, on ne peut plus faire plus parce que la cote d'alerte est atteinte sur les finances publiques. Voilà ce que dit le ministre de l'économie. Qu'est-ce que ça signifie ?
Eh bien, ça veut dire que nos finances publiques sont aujourd'hui dans une situation beaucoup plus délicate puisque les conditions de financement ne sont plus les mêmes. Au moment du quoi qu'il en coûte, la France empruntait à des taux négatifs, voire nuls, mais aujourd'hui on emprunte à 2%. Il devient donc beaucoup plus coûteux de s'endetter. Difficile donc d'accepter toutes les mesures proposées par l'opposition. Bruno Le Maire demande en revanche un effort supplémentaire à Total Énergie. Le pétrolier a d'ores et déjà annoncé qu'il maintiendrait sa réduction de 10 centimes sur les carburants en milieu rural et sur les autoroutes jusqu'à la fin de l'été.
Carole Ferry, chef du service économie d'Europe 1. À 22h20, on fera réagir Boris Vallaud, le président du groupe socialiste à l'Assemblée. On verra ce que propose le Parti socialiste et la NUPES en matière de pouvoir d'achat. Pour faire voter un texte, y compris sur le thème rassembleur du pouvoir d'achat, il faut une majorité à l'Assemblée. Or, vous le savez, celle-ci est loin d'être acquise encore au camp présidentiel. C'est donc la mission confiée par Emmanuel Macron à Elisabeth Borne cette semaine, mission périlleuse. La première ministre se lance à la recherche d'un accord de gouvernement. Elle a commencé aujourd'hui à consulter les chefs de groupes parlementaires et d'abord ceux de la coalition macroniste, Jacques Sauret.
Oui, et dans l'ordre Renaissance, le Modem et Horizon, voilà les trois groupes reçus aujourd'hui par Elisabeth Borne à Matignon. Trois groupes alliés qui composent la majorité relative d'Emmanuel Macron, désormais prêts à faire certaines concessions ou compromis avec les groupes d'opposition, comme le justifie Aurore Berger, celle qui a succédé à Christophe Castaner à la présidence du groupe Renaissance ex-LREM à l'Assemblée.
Je crois qu'il y a un moment de vérité actuellement qu'il est valable pour la majorité et pour les oppositions. Si on donne le sentiment que dans quelques semaines, on n'aboutit pas, alors on sera tous renvoyés justement à nos responsabilités, on sera tous perdants et les Français d'abord. Et notre enjeu, c'est vraiment que les choses aboutissent aboutisse vite, d'où encore une fois cette main tendue et cette concertation qui est engagée avec l'ensemble des groupes parlementaires et pas uniquement les groupes de la majorité.
Les présidents des groupes d'opposition seront reçus demain et après-demain par Elisabeth Borne. Il s'agit de voir jusqu'où ils sont prêts à aller, glisse un conseiller, recueillir leur position pour savoir s'il y a des points de convergence, sans trop d'illusions tout de même. L'exercice a au moins l'avantage pour la Première ministre de montrer un certain volontarisme pour renvoyer la balle à ces mêmes oppositions en cas d'échec.
Jacques Serret. Damien Abad, visé par une nouvelle plainte pour tentative de viol, une plainte déposée aujourd'hui au parquet de Paris. Une élue centriste accuse l'actuel ministre des Solidarités d'avoir tenté de la violer lors d'une fête organisée chez lui. C'était en 2010. Damien Abad annonce déposer plainte en retour pour dénonciation calomnieuse.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Jean-Marc Reiser est jugé depuis ce lundi pour l'assassinat de Sophie Le Tan. Cette jeune étudiante strasbourgeoise avait disparu en 2018 après avoir visité son appartement pour une location. Son corps avait été retrouvé un an plus tard. Jean-Marc Reiser avait fini par passer aux aveux. Mais à l'ouverture de son procès aujourd'hui à Strasbourg, il continue de nier toute préméditation. Malina Fachin, vous avez suivi pour Europe 1 cette première journée d'audience, journée extrêmement dure pour la famille de la victime.
Oui, c'est une épreuve terrible, notamment pour la mère de Sophie Le Tan. Au bout de quelques minutes à peine, alors que le procès n'a pas encore réellement commencé, elle s'effondre, fait un malaise en pleine salle d'audience, comme le raconte Laurent, le cousin de Sophie.
Lorsqu'elle a vu Jean-Marc Reiser, c'était insoutenable. Elle était au bord de l'évanouissement, on a dû la sortir. Et d'ailleurs, elle n'a pas assisté aujourd'hui au procès. Et je dois vous avouer que même moi, ce n'était pas évident. Voir l'assassin, le meurtrier de Sophie en face, juste en face de soi, c'est très dur.
En particulier lorsque le président de la Cour rappelle les faits les plus sordides de cette affaire. Comment Sophie Le Tan est morte sous les coups nombreux et violents de Jean-Marc Reiser. Comment il lui a fracturé le nez. La façon dont il a démembré son corps avant d'en jeter les morceaux dans des sacs poubelles pour les enterrer en forêt. Pendant ce temps, l'accusé lui reste calme dans son box, la tête et les yeux baissés, sans quasiment jamais regarder la famille Le Tan. Le seul moment où Jean-Marc Reiser réagit, c'est lorsque la Cour évoque l'idée d'un piège qu'il aurait tendu à la jeune femme. Il secoue lentement la tête en signe de dénégation. « Non, répète-t-il, je conteste toujours la préméditation. » Poursuivi pour assassinat, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
Malina Fachin à la cour d'assises de Strasbourg pour Europe 1. Un adolescent de 15 ans a été tué par balle à Arles dans les Bouches-du-Rhône. Ça s'est passé hier soir dans un quartier connu pour son trafic de stupéfiants. Un commando a fait feu sur un groupe de jeunes. Le jeune Marwan a été victime d'une balle perdue. Le maire de la ville, Patrick de Carolis, avait déjà alerté les services de l'État sur une hausse de la violence dans sa ville.
C'est une ville qui est choquée parce que la violence des faits, ces règlements de compte, ces fusillades ne sont plus réservés au quartier des grandes villes. Elles touchent à présent tous nos quartiers, toutes nos villes. L'heure n'est pas à la polémique, mais aujourd'hui, l'heure est au recueillement, l'heure est au deuil. Et je veux rendre hommage à ce jeune Marwan dont j'ai eu non seulement les parents au téléphone ce matin, mais je me suis rendu chez eux pour présenter mes condoléances et ceux de la commune. Cet après-midi, j'ai passé un long moment avec eux et je veux avoir une pensée très émue pour eux, pour leurs proches, pour tous ceux qui ont connu ce jeune garçon. Et j'ai décidé de décréter une période de 3 jours de deuil municipal.
Patrick de Carolis, le maire d'Arles, avec David Montagnier. Nous partons maintenant pour les États-Unis. 3 jours après l'annulation du droit à l'avortement par la Cour suprême américaine, la plus haute juridiction du pays laisse libre choix à chaque État de maintenir ou de supprimer ce droit à l'IVG. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. 3 jours après cette décision, donc, la liste des États américains qui bannissent l'avortement s'allonge.
Oui, l'Arkansas, la Louisiane ou encore le Texas ont rejoint la liste des États qui interdisent désormais l'avortement. D'autres vont emboîter le pas dans les prochaines semaines car les textes de loi sont déjà prêts. Et la décision de la Cour suprême galvanise les anti-avortements. Les plus radicaux, comme le Comité national pour le droit à la vie, plaident non seulement pour une interdiction au niveau fédéral, mais aussi pour la criminalisation de tous ceux qui aideraient une femme à se renseigner sur les moyens d'obtenir un avortement. Dans le viseur de ces militants pro-vie, l'accès à la pilule abortive, ces médicaments représentent aujourd'hui plus de 50% des IVG aux États-Unis. Ils sont délivrés par la poste, sur ordonnance après une téléconsultation avec un médecin. Ces produits sont autorisés au niveau fédéral jusqu'à 10 semaines de grossesse par l'agence du médicament. Ils pourraient donc être la seule solution pour les femmes qui vivent dans les États conservateurs, une manière pour elles de contourner la loi. Car la question qui se pose désormais, c'est jusqu'où les autorités locales seront prêtes à aller pour criminaliser l'avortement. Une intense bataille légale se dessine. La Californie prend les devants. Le gouverneur démocrate a annoncé la création d'une loi pour protéger juridiquement les médecins et les patientes originaires d'États conservateurs qui viendront avorter sur la côte ouest.
Alexis Guilleux à New York pour Europe 1. J-4 avant le départ du Tour de France qui s'élancera cette année du Danemark. Et c'est une grande déception pour tous ses fans. Sans Julian Alaphilippe, le double champion du monde n'a pas été sélectionné par son équipe Quick-Step. On se souvient de sa lourde chute. Hein, c'était il y a 2 mois pendant Liège-Bastogne-Liège. Il va manquer Julian Alaphilippe sur cette grande boucle 2022, Jean-François Pérez.
Et oui, Alaphilippe, c'est le chouchou du Tour de France. Un coureur plein de panache, toujours à l'attaque. Il avait effectué une rentrée très convaincante ce week-end au championnat de France. Il disait se sentir mieux qu'il ne pensait. Son maillot arc-en-ciel était l'un des plus attendus vendredi à Copenhague. Mais la raison a prévalu. Le tour, c'est long, 3 semaines, avec des étapes parfois très dures en montagne. Notre consultant Richard Virenque comprend la décision de l'équipe belge, mais il la regrette.
Quelle déception que Lyon doit avoir, quelle déception que les Français vont avoir. Il va regarder le tour de l'autre côté et on aurait tellement aimé le voir sur la course. Et t'es persuadé qu'il aurait pu faire quelque chose la dernière semaine du tour. C'est la raison qu'il a emporté.
Cette absence n'est qu'un épisode de plus dans la difficile saison que traverse Alaphilippe. Une seule victoire d'étape sur le Tour du Pays Basque. Pour le reste, des performances plutôt décevantes, des pépins physiques et des chutes. À 30 ans, le Berrichon va désormais se concentrer sur les objectifs de fin d'année, la Vuelta et surtout les Mondiaux pour une 3e couronne consécutive. Quant au Tour, le public français pourrait reporter son affection sur Thibaut Pinot, en fin de retour et très ambitieux.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Voyons maintenant le temps pour demain. Marlène Duret, quelques orages encore à
oui,
nous annoncer, décidément.
Encore, Alexandre. On sait que les dernières averses orageuses se sont évacuées par le nord-est. La nuit sera calme et puis ça va reprendre. Et en effet, demain, à l'est du Rhône, des Alpes à la Corse, des cellules peu mobiles, ce qui est embêtant puisque ça peut donner des orages type stationnaire. Vous savez ce que ça augure. Eh bien, des pluies intenses au même endroit, dans des endroits très, très localisés.
Ouais, des risques d'inondation.
Exactement. Voilà, jusqu'à la Côte d'Azur d'ailleurs. Donc on va surveiller, Météo France va surveiller particulièrement les Alpes-Maritimes. Et puis des averses orageuses en Corse, nombreuses en fin de nuit et demain matin. Et puis on en aura moins dans l'après-midi. Quelques averses possibles aussi entre la vallée du Rhône et la Franche-Comté. Ambiance plutôt nuageuse sur le flanc est. Et puis ailleurs, eh bien c'est plutôt sec, assez bien ensoleillé. Belle amélioration dans le sud-ouest. Un ciel peut-être un petit peu plus variable, mais quand même de belles éclaircies des Hauts-de-France à la Bretagne et au Pays de la Loire. Et puis, nouvelle perturbation attendue pour mercredi et jeudi. Elle sera un peu plus active jeudi. Elle va traverser très lentement le pays avec quelques orages à l'avant des pluies attendues entre le Massif central et les Ardennes, en tout cas pour la journée de jeudi. Et puis, du côté des températures, bon, vous savez qu'il a fait bien chaud aujourd'hui. La barre des 35 degrés a été dépassée en Corse et en Provence. Et seulement 17 degrés à Toulouse, comparé. On n'est pas trop habitué dans le sud-ouest. En tout cas, ça va baisser un petit peu autour de la Grande Bleue. 28 à 31, bon, jusqu'à 33 quand même à Marseille. Ailleurs, généralement 24 à 27, avec 26 à Paris, Lyon, Agen, Strasbourg, 27 à Grenoble. Et puis un petit peu moins, sous les nuages, dans l'ouest du pays, 19 à 23 degrés, avec par exemple 21 à Nantes.
Merci Marlène, restez avec nous sur Europe 1 dans un court instant, ce sera Top à Wall Street et notre invité politique Boris Vallaud, président du groupe PS à l'Assemblée.
Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Top à Wall Street avec Didier Mo. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
De boursier.com, Wall Street qui commence la semaine prudemment après son récent sursaut.
Pas de risque après un sursaut, oui, de 5 à 6% hein, quand même la semaine dernière. Le Dow Jones repère 0,2%, 31 438 points. Le Nasdaq 7,075%, 11 520 points. Certains analystes restent très prudents, comme ceux de Morgan Stanley, qui pensent que la hausse de la semaine passée n'est qu'un rebond éphémère du marché. Le processus de remontée des taux d'intérêt est loin d'être achevé pour tenter de dompter l'inflation. Donc, beaucoup de prudence en bourse pour commencer la semaine. Apple est stable, 141,66$. Amazon repère 2,7%. Microsoft, moins 1%. Tesla, moins 0,3%. Cisco repère aussi 0,7%. Donc, ça baisse un petit peu sur les valeurs, en particulier de technologie. Il y a quand même le pétrole qui remonte de 3%. On reste quand même sous les 110 dollars, 109,90 $ le baril américain. Exxon en profite quand même pour reprendre 2,4%. Le géant pétrolier est à 89 $. L'euro reste au-dessus des 1,0580 face au billet vert.
La bourse de Paris, elle aussi, repère un peu de terrain.
Oui, même scénario qu'aux États-Unis après le rebond de la semaine dernière. Le CAC 40 a reperdu 0,43%, une petite baisse. Le marché se maintient quand même au-dessus des 6000 points, 6047 points. Les valeurs santé reperdent du terrain, comme Abéscience, moins 3%, comme Ipsen, moins 2,6% à 85,85 €. Le groupe Ipsen va acheter la société américaine Epizim pour 251 millions de dollars. Il y a quelques baisses à signaler du côté des grandes valeurs industrielles. Holcim, moins 2%. Safran aussi, moins 2,2% à 92,87 €. Et puis Vinci perd 1,8% et revient à 86,17 €.
Exception du jour, le secteur automobile qui a terminé parmi les plus fortes hausses de la séance.
A commencer par l'équipementier Faurecia qui prend 4%, qui remonte sur la barre des 20 € tout rond. Le broker Jefferies repasse à l'achat sur Faurecia en visant un cours de 28 €. L'analyste estime que la reprise des volumes devrait aider le groupe à remonter la pente en bourse. Donc ça remonte ce soir de 4% sur Faurecia à 20 €. Les autres valeurs de l'automobile d'ailleurs sont plutôt fermes. Un Renault plus 2%, 25,27 €, et Stellantis est stable à 12,41 €. Les autres places financières sont irrégulières. En Europe, le DAX à Francfort a gagné 0,5%, Madrid plus 0,2%, mais Milan moins 0,8%. Et donc le CAC 40 en baisse ce soir de 0,43%, 6047 points.
Merci Didier Hamot. L'invité politique sur Europe 1 à 22h21. Bonsoir Boris Vallaud.
Bonsoir.
Député PS des Landes, vous êtes le nouveau président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, un groupe de 32 députés. Quelles vont être vos priorités justement dans l'hémicycle ? Le pouvoir d'achat ?
Oui, bien sûr, le pouvoir d'achat, l'urgence sociale. Il y a une forme d'ultimatum social dans la crise avec cette inflation, avec cette perte de pouvoir d'achat considérable pour les ménages, en particulier par les plus modestes. Il y a aussi une urgence écologique qui est face à nous et qu'il faut, j'allais dire, prendre à bras-le-corps, ce que n'a pas fait le gouvernement pendant 5 ans. Il a même été condamné pour une action climatique. Donc voilà deux mamelles, j'allais dire, de l'action parlementaire du groupe socialiste et apparenté avec ses partenaires de gauche.
On a pour l'essentiel les principales mesures du projet de loi pour le pouvoir d'achat du gouvernement qui doit être présenté en Conseil des ministres dans une dizaine de jours. Revalorisation des prestations sociales, bouclier tarifaire, chèque alimentaire. Ça va dans le bon sens tout cela pour vous ?
Écoutez, prenons quelques-uns des exemples, parce que c'est intéressant. Le chèque alimentaire, ce que j'ai compris, c'est que c'était 100 € par foyer, plus 50 € par enfant à charge. Tant mieux pour ceux qui vont le toucher. Mais c'est une fois, alors que l'UNAF nous dit la perte de pouvoir d'achat pour une famille avec deux enfants, c'est 220 € par mois.
Par mois, oui.
Là, c'est pour un an. Vous évoquez, par exemple, la prime pouvoir d'achat. La prime pouvoir d'achat, c'est la concurrence des salaires. C'est très inégal selon l'entreprise dans laquelle on travaille. C'est non contributif, c'est-à-dire que quand on vous verse une prime, vous ne cotisez pas, donc vous ne vous créez pas de droits. Ce que l'on prétend vous donner d'une main, en réalité, le gouvernement entend, en faisant travailler plus longtemps pour la retraite, vous le reprendre de l'autre. J'entends la hausse des APL, plus 3,5%. Ça va coûter 168 millions d'euros aux finances publiques. Dans le dernier quinquennat, il y a entre 12 et 15 milliards d'euros d'économies qui ont été faits sur les APL. Vous savez, ceux qui touchent les APL, pour 60% d'entre eux, ils vivent sous le seuil de pauvreté. C'est probablement la plus efficace des dispositifs sociaux pour venir en aide aux familles les plus modestes. Donc, c'est très insuffisant, c'est très partiel. Et puis, ça ne répond pas structurellement à la question du pouvoir d'achat, c'est-à-dire d'abord du partage de la richesse qui est créée par tous les travailleurs. C'est pour ça que nous, on plaide pour l'augmentation des salaires, on plaide pour la limitation des écarts de rémunération et pour l'augmentation du SMIC à 1 500 €. Les salaires, c'est toujours préférable aux chèques, aux primes qui ne durent qu'un temps, qui ne sont que partiels, qui ne sont pas la reconnaissance d'un travail digne. Et si on veut défendre la valeur travail, il faut d'abord défendre le travail de valeur. Et ce n'est pas forcément ce que fait le gouvernement. Donc, nous avons des propositions.
Le problème, Boris Vallaud, c'est que vous n'avez pas la main sur la hausse des salaires.
Écoutez, sur le SMIC, l'exécutif l'a d'évidence, et puis ça entraîne un certain nombre de conséquences. Il est toujours loisible également au gouvernement de convoquer des conférences salariales, de poser la question de la limitation des écarts de rémunération, de l'égalité de fiscalisation du travail et du capital. Vous savez qu'aujourd'hui, mais il vaut mieux être rentier que travailleur, puisque le capital est moins taxé que le travail. Oui, il y a des choses qui peuvent être faites pour un plus juste partage de la valeur ajoutée. Et il est juste en tête une chose, parce que quand je dis l'urgence sociale, elle est là. On a depuis 2008 les 10% de salaires les plus élevés qui ont augmenté 3 fois plus vite que les 10% les plus faibles. Vous voyez bien que ça fait les Françaises et les Français pour lesquels la fin du mois, ce n'est pas le 30, c'est le 15. Avec l'augmentation du prix du carburant, on n'arrive pas non seulement à remplir son frigo, mais à remplir le réservoir d'essence pour aller travailler.
Boris Vallaud,
oui, il y a une urgence sociale.
Boris Vallaud, comment comptez-vous concilier la lutte pour le pouvoir d'achat et la lutte que vous évoquiez contre le réchauffement climatique ?
Eh bien, les deux sont tout à fait liés. Parce qu'en réalité, la transition écologique, si c'est bien fait, si c'est planifié, si c'est fait dans la justice, eh bien, c'est aussi la promesse d'une vie meilleure pour les plus modestes. Je vous donne un seul exemple. C'est la question de la rénovation thermique des logements. Aujourd'hui, c'est 25% des consommations d'énergie finale. C'est 12 millions de Françaises et de Français qui vivent dans des passoires énergétiques. Ça veut dire qu'elles vivent aussi mal qu'elles se chauffent mal. Soit elles se chauffent trop et elles ont besoin de se serrer la ceinture sur les vêtements, sur la nourriture, sur la santé. Soit elles se chauffent mal avec des conséquences qui peuvent être aussi des conséquences sur la santé. Dire, nous mettons le paquet. Et nous avons fait des propositions pour sortir 12 millions de Français de la précarité énergétique en 10 ans, ouais. Avec zéro reste à charge au moment des travaux. Et ainsi, nous faisons ça, nous desserrons la ceinture de beaucoup de Françaises et de Français qui vivront mieux. C'est mieux se nourrir avec l'agroécologie, c'est mieux se déplacer avec les transports en commun et avec la promotion des véhicules électriques.
Boris Vallaud.
Je pense qu'il y a un enjeu qui est fondamental, qui est un enjeu social.
Boris Vallaud, est-ce qu'on verra des ministres socialistes entrer dans le prochain gouvernement à l'occasion du prochain remaniement ?
Non, écoutez, je ne le crois pas. Ça fait plusieurs fois que le président de la République ou la première ministre nous interroge. Il nous demande à quel compromis les oppositions sont prêtes pour mettre en œuvre le programme présidentiel. Enfin, nous n'avons pas été élus pour mettre en œuvre le programme présidentiel. Et nous ne pouvons pas donner à Emmanuel Macron la majorité que les Français lui ont refusée dans les urnes. Donc la question, en réalité, elle est à rebours. Et je conçois que la situation soit inédite, soit nouvelle, et qu'elle pose un certain nombre de questions de pratiques politiques et de pratiques institutionnelles. Mais la question qui est posée, c'est à quel compromis l'exécutif est prêt ? À quoi il est prêt à renoncer ? Qu'accepte-t-il de prendre des propositions que nous formulerions ? Je vous en ai donné un certain nombre. Je pourrais aussi parler de la garantie d'autonomie universelle, ce qu'on avait appelé le minimum jeunesse. C'est comment est-ce qu'on ne peut pas ouvrir les droits sociaux à 18 ans ? On est un des rares pays d'Europe à ne les ouvrir qu'à 25 ans. À tenir les enfants dans une sorte les jeunes dans une forme de tutelle comme s'ils étaient des enfants jusqu'à 25 ans.
Oui. Boris Vallaud, en quelques mots, parce que malheureusement le temps nous manque.
Oui,
Elisabeth Borne reçoit les chefs de groupe parlementaires. Elle va donc vous recevoir, Boris Vallaud. Qu'allez-vous lui dire ?
Ce que je vous dis là, à quel compromis, à quoi le gouvernement est prêt à renoncer ? Vous savez, je ne crois pas que le président de la République ait été essentiellement élu sur son programme. Il a été au second tour contre l'extrême droite. Sont-ils prêts à reprendre des propositions que nous formulons sur le pouvoir d'achat, comme je l'ai dit, des conjugalisations de l'âge, revalorisation de la rentrée, d'allocation de rentrée scolaire, des 3 ans, revalorisation du minimum contributif. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous formulons des propositions étayées, construites, et ce que le gouvernement est prêt d'une certaine manière à changer d'attitude et à changer de méthode. On est dans une situation institutionnelle inédite, avec un parlementarisme qui est issu des urnes. Est-ce que le gouvernement est capable de proposer une nouvelle méthode ?
Merci à vous, Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Merci. 22h28 sur Europe 1. Dans un instant, les unes de la presse et la libre antenne avec Olivier Delacroix.
Europe 1. Alexandre Lemaire.
Les unes de vos journaux demain matin, mardi, décidément beaucoup de mise en garde hein, à la une de vos journaux, mise en garde du patronat sur le pouvoir d'achat, c'est la une des Échos. Geoffroy Roux de Bézieux, patron du MEDEF qui s'inquiète des nouvelles dépenses coûteuses, la cote d'alerte sur les finances publiques, elle est déjà dépassée, juge-t-il, c'est en réaction aux propos de Bruno Le Maire. Bercy écarte pour le moment l'idée d'une taxe sur les surprofits de certaines entreprises et les employeurs sont invités à financer davantage les coûts de transport des salariés. Deuxième mise en garde. garde, hôpital. C'est un été sous tension qui se profile. C'est à lire à la une de la Croix. Pour aider les urgences des hôpitaux à passer l'été malgré le manque de personnel, des professionnels recommandent une meilleure régulation au risque d'un filtrage des patients faute de pouvoir tous les prendre en charge. Troisième mise en garde, ma crèche va craquer. C'est la une de Libé. Conditions de travail difficiles, bas salaires, manque de considération. De nombreuses structures peinent à accueillir les enfants. Pour résoudre le problème, l'exécutif envisage une mesure controversée, élargir le recours à des salariés non qualifiés. Et puis Alaphilippe passe son tour, la une d'aujourd'hui en France. Malgré une performance correcte dimanche, le champion français n'a pas été sélectionné par son équipe. Il doit donc renoncer à la grande boucle qui commence vendredi. 22h30, vous êtes sur Europe 1 et c'est la Libre Antenne. De retour comme chaque lundi soir, enfin de retour avec vous, Olivier Delacroix.
Exactement,
bonsoir.
Me revoilà.
Je me posais la question, tiens, puisqu'on parlait de cyclisme il y a un instant, on vous entend surtout souvent nous parler foot. Est-ce que c'est quelque chose que vous suivez
absolument
le
pas.
Tour de France
hein absolument
c'est bien
pas.
Ce qui me semblait. Hein.
C'est quelque chose que dont je suis complètement. Je ne comprends pas en fait. Parce que je sais qu'il y a tout un tas de stratégies. Mise en place par les équipes pour faire gagner le numéro 1 et voir le numéro 2. Mais je sais que ça passionne plein
c'est, c'est hyper populaire.
Je sais. Mais voilà, je ne me suis jamais passionné pour un gars qui pédale comme un furieux. Non.
Quand je vous écoute, je me dis, on ne peut pas être expert en tout. Vous êtes un expert, une fine lame du football, mais alors là, pour le coup, le cyclisme...
Bien évidemment qu'on ne peut pas être expert en tout, et c'est bien.
Bien sûr.
C'est ce qui fait la beauté du monde, bien c'est sûr. Que nous soyons tous différents les uns et les autres. Mais non, je sais que voilà, il y a des grands noms, dont beaucoup de nos confrères de l'équipe du soir, notamment, qui viennent ici parfois avec... Lionel, qui font partie des intervenants de l'équipe des sports d'Europe 1. Non, c'est vraiment pas un truc qui me passionne, mais jamais.
Je vous soupçonne d'utiliser ça, parce que ça, c'est un sport répandu à la maison, d'utiliser le Tour de France pour la sieste. Je vous vois bien allongé sur le canapé après, à l'heure du déjeuner, là.
Non, hein, j'ai pas besoin d'excuses particulières.
Vous faites pas ça, vous, d'accord.
Non. Bon, okay. Non. Non, non, mais bon, voilà. Bon. Et puis, je vais vous dire, en ce moment, il n'y a pas un match de foot, et c'est dur.
Ah c'est bah oui ça fait c'est un grand
extrêmement
ça doit faire
dur.
Un grand vide pour vous
bah
justement c'est
mais pour moi et pour
de,
plein de
d'accrocher autour de France
plein de gens que je connais qui sont oui. C'est fou on voit combien ça nous
vous êtes accro
ouais combien
bah
ça
oui,
nous
c'est
tient
ça. Ouais c'est ça, ça oui, c'est tient. Addictif
c'est marrant c'est voilà non mais quand vous pensez qu'en fait finalement on se passionne pour des milliardaires qui courent après un ballon enfin des millionnaires on va dire certains milliardaires, c'est quand même un peu aberrant.
Bah,
au final,
il y a toujours une façon peu flatteuse de présenter un sport. Vous parliez du vélo il y a quelques instants.
Oui, mais bon, voilà. C'est pareil finalement, parce qu'il y a plein de gens qui doivent se dire, mais comme, enfin, pourquoi il aime le foot comme ça et, bah, écoutez, je sais que le foot, c'est quelque chose qui nous procure. Je dis nous parce qu'on est beaucoup. Ça nous procure beaucoup d'émotions et aller savoir pourquoi on s'emballe autant à supporter une ville. De gars qui n'ont jamais habité dans la ville
c'est
et
vrai.
Qui ne sont pas nés dans la ville.
Moi,
bon, à part Mbappé, qui est parisien quand même. Mais c'est quelque chose qui fait appel un peu... Je pense que c'est ça fait appel un peu à notre côté primitif, en fait. Non, mais c'est vrai, je ne rigole pas.
On se fait beaucoup de copains aussi, voilà.
Oui, puis il y a le stade, il y a la foule. Voilà. Mais vous voyez, défendre les couleurs d'une ville... Quelque part, hein, ça fait appel à notre côté un peu centurion, vous voyez, un peu... Donc, bon, voilà. Mais bon, c'est dur en ce moment.
C'est dur, quelle souffrance.
Ouais, c'est vrai, on se le disait aujourd'hui. C'est, bon. Je connais même des gens dont ça atteint le moral. Là.
Ah oui, à ce moment-là.
Ah mais vraiment.
Ah oui. Bon, moi, je suis vacciné contre ça. Là. Ça
oui, bah,
ça
écoutez,
va.
Il vaut mieux être fan de rock'n'roll plutôt que de football, je vous l'accorde. Bon, bah, on se retrouve à 23h, mon cher Alexandre. À tout à l'heure.